RFJ Info.
Le journal de Nancy Chapuis.
Bonjour. Le marché du travail décortiqué dans l'arc jurassien. L'Observatoire statistique transfrontalier vient de publier sa brochure annuelle. On y apprend par exemple que le nombre de frontaliers est en augmentation dans le Jura, mais pas dans le canton de Neuchâtel. La terre a tremblé en mer Égée. Les dégâts sont impressionnants sur l'île grecque de Kos. 2 personnes y sont mortes. De nombreux touristes suisses se trouvent sur place, mais selon le voyagiste Hôtel Plan, seuls quelques-uns souhaitent rentrer en urgence. Des footballeurs régionaux vont arpenter les terrains de Challenge League. À quelques heures de la reprise, on vous propose de rencontrer le prévotois Steven Lang de Servette et le jurassien Léo Farine qui joue avec Neuchâtel Xamax FCS. Ils nous parleront dans le point sport de leurs ambitions. La journée pourrait se terminer sous les grêlons. Après un bel ensoleillement, des cellules orageuses vont se développer sur la région. Des orages pourraient éclater sur les hauteurs, puis en pleine en soirée. Ce menu météo vous sera d'ailleurs servi tout le week-end. Tout savoir sur le marché du travail dans l'arc jurassien franco-suisse. Le Stage vient de publier la 2e édition de sa brochure annuelle sur le sujet. Le document réalisé par l'Observatoire statistique transfrontalier de l'arc jurassien dresse un portrait de différents domaines de l'emploi des deux côtés de la frontière franco-suisse en 2016. François Comte nous en résume les principaux enseignements.
Le nombre d'emplois tout d'abord a augmenté dans l'ensemble de l'arc jurassien franco-suisse. La hausse est surtout portée par le secteur de l'intérim côté français. En Suisse, l'augmentation est également légère et la croissance des emplois du secteur tertiaire compense le repli dans l'industrie. Le nombre de travailleurs frontaliers issus de l'arc jurassien français, quant à lui, est resté quasiment stable en 2016. Il est même en baisse dans le canton de Neuchâtel, notamment en raison du ralentissement de l'horlogerie. C'est l'inverse dans le canton du Jura, avec une hausse, mais qui reste inférieure à celle des années précédentes. Tentative d'explication de cette particularité jurassienne avec un des rédacteurs de la brochure, le chef du service de la statistique du canton de Neuchâtel, Gérard Geyser.
On voit aussi que cette augmentation du nombre d'emplois est liée à l'activité économique, hein, en général, de chaque canton. Alors effectivement, ça peut augmenter pour l'ensemble du canton, mais peut-être un peu plus pour le secteur tertiaire, par exemple, alors que dans le secteur secondaire, on voit quand même que le nombre de frontaliers a tendance à se stabiliser, voire à diminuer.
Reste que sur l'ensemble de la partie suisse de la région, la croissance du nombre de travailleurs frontaliers issus de l'arc jurassien français se ralentit depuis plusieurs années. On retrouve Gérard Geyser.
Ce ralentissement est totalement dû aux éléments conjoncturels que les cantons peuvent subir par rapport à leur activité économique. C'est sûr qu'actuellement, c'est plutôt le secteur industriel qui a tendance à voir le nombre de frontaliers diminuer en raison d'une conjoncture un peu plus compliquée au niveau mondial.
Dernier domaine analysé, celui du chômage. Le nombre de personnes sans emploi a globalement diminué dans l'arc jurassien franco-suisse. Le taux de chômage a reculé en France voisine, mais il a augmenté dans la partie suisse de la région. La hausse est particulièrement marqué dans les cantons du Jura et de Neuchâtel.
Et retrouvez toutes les informations sur ces statistiques sur le site internet www.ostage.org. Le musée rural jurassien regarde de plus près vos chaussures. Dans le cadre de son exposition consacrée à Imier Ullmann, cordonnier à l'ajout, l'institution des jeunes V accueille un cordonnier dimanche de 14h à 17h. Alfonso Ciampi fera découvrir son métier en pleine mutation ces dernières décennies. Un incendie s'est déclaré ce matin à Cressier. Un atelier d'ébénisterie a été complètement détruit par les flammes. Les causes du sinistre sont encore indéterminées. L'alerte a été donnée vers 10h. Plus d'une dizaine de pompiers du Landron se sont rendus sur place. Ils ont pu maîtriser le sinistre après environ 1h30 d'intervention. Outre les dégâts matériels, une personne a été blessée et emmenée à l'hôpital. Swatch Group redresse la barre. Le numéro 1 mondial de l'horlogerie a dégagé un bénéfice net en hausse au premier semestre. Le résultat du groupe biennois a augmenté de 6,8% à 281 millions de francs. Son chiffre d'affaires a lui diminué de 0,3% pour s'établir à 3,71 milliards de francs. Les explications de Joël Régli.
Swatch Group va mieux, et ce constat concerne l'ensemble de ses 18 marques. La tendance est d'autant plus forte dans les segments prestige et luxe, un phénomène qui est aussi observé pour les premières semaines du mois de juillet. Sur les marchés, la progression la plus significative touche la Chine continentale. Quant à Hong Kong, les ventes s'y sont stabilisées. C'était un marché en contraction depuis de longs mois. Pour la suite de l'exercice, Swatch Group s'attend à un deuxième semestre en croissance très positive. L'entreprise Cisa Bien précise qu'elle prévoit de lancer de nombreux nouveaux produits. Un optimisme qui contraste avec les chiffres de l'année passée. Pour rappel, Swatch Group avait vu son bénéfice net chuter de moitié. Ceci n'avait pas empêché Nick Hayek d'annoncer une croissance saine pour 2017.
Une découverte macabre dans une forêt turgovienne. Un corps carbonisé a été trouvé dimanche par une promeneuse près d'Amerisville. Le cadavre est celui d'un Serbe de 41 ans qui habitait en Suisse orientale. Les circonstances de la mort ne sont pas encore claires. La police cherche d'éventuels témoins qui auraient observé des activités particulières dans cette forêt. Des dégâts impressionnants sur les îles de la mer Égée. Le séisme de magnitude 6,7 survenu la nuit passée entre l'île grecque de Kos et Bodrum sur la côte turque a provoqué la mort de deux touristes, un Suédois et un Turc. Il y a une centaine d'autres blessés. Le tremblement de terre a été violent, mais ce matin, le calme semble revenir dans les stations balnéaires. De nombreux touristes suisses sont sur place. Le voyagiste Hôtel Plan n'a recensé qu'une blessée légère qu'il n'a pas été nécessaire d'hospitaliser. Il n'y a visiblement pas de mouvement de panique et de vagues de retour précipitées. La porte-parole d'Hôtel Plan, Prisca Huguenin-Dillenoir.
Actuellement, on est en contact avec nos représentants et on a reçu le feedback que tous les hôtels opèrent normalement. Il ne faut pas changer d'hôtel, les hôtels fonctionnent comme toujours. On essaye de contacter en fait tous nos clients. On a actuellement 379 clients qui sont à Kos et 6 clients à Bodrum. On a connaissance seulement d'un cas d'une cliente qui est très légèrement blessée.
Qu'est-ce qu'on vous dit ? Est-ce que ce sont des vacances forcément gâchées ?
Les premiers feedback sans que les clients veulent rester. On a seulement 5 clients qui souhaitent revenir plus tôt que prévu.
Est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible de partir ? Est-ce que ça vaut la peine d'aller tout de même là-bas ?
Tout à fait, vu justement que tous les hôtels sont en bonne fonction, qu'on n'a pas dû faire une évacuation d'un hôtel. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. 28 ans après sa mort, ses moustaches indiquent toujours 10h10. L'exhumation de Salvador Dalí s'est déroulée hier soir. Depuis, les experts judiciaires ont analysé sa dépouille et ont indiqué que le corps embaumé était bien conservé, notamment sa célèbre moustache. Un test de paternité a été réclamé par la justice. Si la filiation était démontrée, une femme de 61 ans serait la seule descendante de Salvador Dalí et pourrait prétendre à un quart de son héritage. Une figure de la musique rock s'est éteinte. Chester Bennington est mort hier à l'âge de 41 ans aux États-Unis. Le mythique chanteur du groupe Linkin Park aurait été retrouvé pendu en Californie. Il se serait suicidé. Retour sur une carrière et une vie animée avec Michel Léoni.
La musique est un vecteur d'émotion et Chester Bennington, chanteur et compositeur, n'a cessé de s'en servir tout au long de sa carrière et principalement dans le groupe Linkin Park. Son enfance difficile, il l'a transcrite dans le premier album, Hybride Theory, avec des paroles qui reviennent sur la maltraitance, l'isolement ou encore la dépendance à la drogue. C'est à la fin des années 90 que Chester Bennington rejoint une bande de potes formée notamment par le rappeur Mike Shinoda. Ils formeront le groupe Linkin Park. Et une complicité sonore, un doux mélange de saveurs, habitera le duo formé par le rappeur Mike Shinoda et le rocker Chester Bennington. Le tube Something I Belong de l'album Meteora est là pour nous le prouver. Vecteur d'émotion, les tubes de Linkin Park, écrits en grande partie par Chester Bennington, sensibilisent aussi au sujet d'actualité. L'album de rock expérimental A Thousand Suns revient sur le thème de la guerre, comme ici dans Burning in the Skies. La voix sincère du chanteur évoque le feu et le sang qui habitent notre ciel. Linkin Park a parfois été visé par la critique, ce qui a affecté Chester Bennington. On a reproché au groupe de se diriger de plus en plus vers le commercial, d'abandonner le metal pour la pop. Ces derniers mois, Linkin Park a encore frappé avec l'album One More Light. Si le titre évoque la lumière, les paroles déroutantes parlent-elles de ténèbres et de démons ? comme en témoignait ce dernier au revoir.
RFJ 12h25.
Le sport avec la loterie romande.
Les Star Wings continuent de se servir au BC Boncourt. Le club ballois de Liga de basketball annonce ce matin l'engagement de Guillaume Grédy. Le jeune ailier de 21 ans n'a eu que peu de temps de jeu la saison passée dans les rangs du BCB. Après Alexis Herman et Nemanja Kalanzan, Guillaume Grédy est le troisième joueur du BC Boncourt à rejoindre les bords du Rhin en quelques mois. Deux joueurs de la région vont lorgner vers le haut du tableau de Challenge League de football. Le championnat reprend ses droits ce soir avec en ouverture la rencontre entre Neuchâtel, Xamax FCS et Arro. Les favoris se pressent au portillon dans un championnat de Challenge League qu'on annonce serré. Parmi les équipes qui devraient jouer les premières places, on retrouve Servette. Le prévôtois Steven Lang a posé ses valises dans le vestiaire genevois et son intégration est une réussite.
Je le vis très bien, il y a un bon groupe, il y a beaucoup de talent dans cette équipe et on l'a vu je pense sur certains matchs de préparation. Je pense qu'on arrive à répéter le même match que contre Sion, peut-être le premier match. Maintenant il va falloir bien débuter le championnat parce que c'est toujours important de bien commencer et après on verra ce qui va se passer. Mais on est ambitieux et on aimerait faire une belle saison pour nous, pour les supporters et pour que Servette retrouve l'élite le plus rapidement possible.
Comment vous voyez votre rôle? C'est un peu un travail de l'ombre, un peu déstabiliser la défense adverse ou au contraire provoquer des déséquilibres disons un peu plus décisif?
Ce qu'on attend d'un milieu de couloir, c'est qu'il provoque sur son côté, qu'il amène le surnombre, qu'il marque des buts et qu'il fasse des passes décisives. Donc ça ne change pas d'un attaquant. Après, c'est clair que ce n'est pas le même poste, mais c'est à moi de m'adapter, d'être performant sur le terrain.
L'autre équipe romande, Neuchâtel Xamax FCS, fait aussi partie des équipes qui semblent les mieux armées pour jouer la promotion. Le défenseur jurassien Léo Farine fait partie de l'effectif xamaxien. Il revient d'une vilaine blessure qui l'a tenu garder des terrains pendant une dizaine de mois et se réjouit de faire partie de l'aventure neuchâteloise dans ce championnat de Challenge League. Léo Farine.
C'est vrai que après une blessure comme ça, on est au fond du trou. On travaille seul, ça c'est compliqué. On est moins impliqué dans l'équipe et de pouvoir retourner sur le terrain avec ses coéquipiers, de pouvoir jouer, ça fait du bien. Surtout que je vois qu'il n'y a pas tellement de douleur. Donc je suis content et les sensations reviennent gentiment. Quoi.
Reviennent gentiment, ça signifie qu'il vous faudra quand même encore du temps pour retrouver tous vos moyens?
Alors après une absence d'environ 9 mois, c'est clair qu'on ne revient pas à 100% en deux semaines. Donc oui, il faudra encore du temps pour retrouver certaines sensations, mais la base est là et je suis très satisfait.
Vous l'avez dit, vous avez eu 9 mois d'absence, vous revenez. Quelles sont un peu vos attentes pour cette saison?
J'espère avoir du temps de jeu. Après, je sais que ça ne va pas être facile, surtout au début. Je devrais travailler, écouter, progresser, beaucoup apprendre et attendre ma chance patiemment. Et quand elle viendra, la saisir.
Un dossier réalisé par Mathieu Schaffner et nos confrères de OneFM. Ce soir, dans notre journal de 18h, nous parlerons de deux autres joueurs de la région engagés en Challenge League, mais qui devraient, eux, plutôt lutter contre la relégation. Il s'agit de Célien Wicht, qui évolue à Rapperswil-Jona, et Dylan Stadelman, qui porte les couleurs de Volun. Une étape de transition avant le feu d'artifice final. Les coureurs du Tour de France cycliste s'attaquent aujourd'hui à 222 km entre Embrun et Salon de Provence. Aucune difficulté majeure n'est recensée. Les favoris vont se contenter de se placer dans le peloton avant d'en découdre demain dans le contre-la-montre qui doit sceller l'issue de cette grande boucle 2017. Sur la route du Tour, la présentation de la 19e étape est signée Fred Adam.
C'est presque fini, mais pas question de relever la garde. Il reste 3 étapes avant d'en terminer sur les Champs-Élysées. Et au lendemain d'un fabuleux final au col d'Izoard, les 169 rescapés du Tour auront droit à une journée à rallonge sur les routes provençales, à travers les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. 222 km 500 au profil descendant, au départ d'Embrun, sur les bords du lac de Serre-Ponçon, puis la traversée de Sisteron, du Tour Rouge Colorado-Provençal, du Luberon, baigné par le Champ des Cigales, avant l'arrivée à Salon, à l'entrée du delta rhodanien. Pas d'avis de grand vent, contrairement à l'autre jour vers Romans, mais quelques difficultés en chemin. 3 côtes de 3e catégorie, dont la dernière, le col du Pointu, situé à 45 km de l'arrivée. Une étape où des baroudeurs attaquant de loin pourraient profiter de la fatigue généralisée, à moins que les sprinteurs trouvent la force de se livrer à un rush final avant le sprint annoncé sur les Champs-Élysées dimanche. En tout cas, rien de périlleux. A priori, pour le maillot jaune et les coureurs encore en lice pour le podium du classement général, déjà tout tourné vers le contre-la-montre de demain dans les rues de Marseille.
Et merci Nancy. Et l'info en tout temps est sur rfj.ch, un jour et nuit, comme toujours. Météo News prévoit ce soleil jusque vers la mi-journée, c'est-à-dire maintenant, voire quand même jusqu'au milieu d'après-midi, en pleine. Par contre, par la suite, les passages nuageux gagneront du terrain. Ils déboucheront sur des cellules orageuses qui éclateront d'abord en montagne, puis en pleine entre la fin de journée et ce soir. On nous annonce même un risque de grêle par endroit. Le mercure, lui, est à son maxima à 22 degrés aux Franches-Montagnes, 27 en pleine. Demain, le ciel sera partagé entre nuages et belles éclaircies avec déjà quelques averses possibles avant la mi-journée. Ces averses prendront un caractère orageux l'après-midi, se prolongeant la nuit suivante. Il fera à l'aube entre 13 et 18 degrés, puis au mieux 23 à Seignelay et entre 26 et 27 à Port-en-Truy, Delémont et Moutier.